Dans ce tour de table culturel de samedi matin, il n'y a qu'une femme, Diane Chénouda.
Ah, oui.
Mais néanmoins, c'est pas vous qui allez commencer.
Hein.
Heureusement que vous êtes
bah
là
oui,
pour vaguement
veille
les
de journée
équilibres.
Des femmes.
Il y a aussi Nicolas Carreau et puis il y a aussi Thierry Geffrotin à qui je donne la parole tout de suite de la musique. Donc avec vous, Thierry, la réédition de la BO d'un film qui a vraiment marqué et fait rêver, je crois, toute une génération, dont en partie la mienne, la musique du Grand Bleu. Éric Serra.
Évidemment, j'allais dire.
Mais oui, évidemment.
Pas besoin de vous rafraîchir la mémoire, Bernard. Et pas besoin d'images. Cette musique nous emmène à plus de 100 mètres de profondeur. Le compositeur à qui l'on doit cette bande originale, en effet, vous l'avez dit, c'est Éric Serra.
Il y a aussi ça dans Le Grand Bleu. Je ne me souvenais plus, là, voyez.
Oui.
Et cette réédition d'une musique super connue, est-ce que ça vaut vraiment le détour ?
Alors, je vous ai apporté le coffret collector.
Il est beau, il est carré, il est tout bleu.
Il est tout bleu. Alors, vous avez dans ce coffret un double CD, trois vinyles, si vous préférez.
Ah, ça se fait maintenant. Ça,
oui. On y revient. Trois vinyles, si vous préférez écouter la BO sur une chaîne stéréo à l'ancienne. Et un DVD pour revoir le film de Besson, pas seulement pour écouter la musique d'Éric Serra. J'ajoute une longue interview d'Éric Serra, fort passionnante dans ce coffret collector.
Mais passionnante à quel point ? Qu'est-ce qu'on apprend de neuf ?
Eh bien déjà, on apprend que Luc Besson voulait disposer des thèmes musicaux pendant le tournage pour s'en imprégner. Ça se pratique, hein. C'est ce que faisait notamment Ennio Morricone avec Sergio Leone. Alors qu'Éric Serra lui préférait être inspiré par l'image.
Donc il composait après avoir
voilà,
vu le film.
D'où un bras de fer, finalement, Besson a eu gain de cause. On apprend aussi que le réalisateur envisageait à l'origine une musique symphonique dans le genre de John Williams, vous voyez. Et l'autodidacte Éric Serra a donc écouté en cachette, j'allais dire, du Debussy, du Ravel, du Stravinsky. Ça a duré 2 ans. Et finalement, le réalisateur a dit à Serra, non, j'ai réfléchi, on oublie la musique symphonique, il faut une partition en accord avec notre identité, notre culture, et voilà ce que ça donne.
Et voilà le résultat. Donc la bande originale que nous connaissons revient apparemment d'assez loin, en effet. Peut-être encore une anecdote pour
la
route.
Une dernière. Éric Serra qui donne aujourd'hui beaucoup de ciné-concerts. Il sera d'ailleurs ce soir à Rouen, demain à Lille, mercredi à Metz.
C'est pas annulé pour
jeudi.
Lui. Il a de la chance.
Eh bien écoutez,
pour
l'instant,
moment, non, tient,
à surveiller. En effet, allez voir sur le site Grand Bleu Ciné-Concert. Comme ça, je pense que vous le saurez en temps réel. Ben, quand on lui a proposé de faire des ciné-concerts, la première fois c'était en 1988, c'est pas hier. Hein.
Non.
Il a refusé, estimant que sa musique, fruit d'un long travail en studio, était impossible à restituer sur scène. Et depuis, il a changé d'avis. No more sun,
no more wind. Ça aussi, c'est dans la bande originale.
Ah oui.
Mais écoutez, je me souviens.
Il faut revoir le film. Exactement. Le coffret, le Grand Bleu Collector, édité par Universal, autour de 80 euros. Et c'est un partenariat.
C'est le prix de l'excellence.
C'est le prix de l'excellence en partenariat avec Europe 1.
Précisons-le tout de même. Nicolas Carreau, cette semaine, il revient sur mes plates-bandes, l'infâme. Enfin bon, c'est quand même pas exactement ça. Vous voulez nous parler de l'un des plus grands écrivains de thriller judiciaire, bien sûr John Grisham.
Oui, les chiffres de vente, moi c'est pas toujours très intéressant, mais lui quand même, ça impressionne.
Peur.
Il a vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Il est dans le top 5 mondial. Si je vous dis l'affaire Pelican,
j'ai défloré le truc,
John
Grisham,
dont la spécialité reste le thriller judiciaire. C'est pour ça que c'est pas tout à fait vos plates-bandes. C'est très particulier,
c'est
le thriller
particulier judiciaire.
C'est-à-dire donc monter une intrigue, un suspense autour des règles juridiques. Le héros s'en sort grâce à sa maîtrise du droit ou grâce à son avocat. C'est quand même dingue, hein, de captiver les lecteurs avec ça.
Bah oui, mais il sait faire, en l'occurrence. Est-ce que le dernier opus est bon, là ?
Excellent. La sentence chez Lattès. Les deux ou trois derniers Grisham étaient un peu sortis de sa zone de confort, et c'était bien, mais là, ouf, il revient avec très très fort. Je vous raconte, c'est l'histoire de Pete Banning. C'est un héros de guerre. Nous sommes en 1946 dans l'état du Mississippi, au sud des États-Unis. Pete a retrouvé ses deux enfants, sa grande plantation de coton et sa femme. Donc tout va bien. Mais un matin, il se lève à l'aube. Très calmement, il fume une cigarette, il boit un café, il prend son Colt 45 et il sort. Il rejoint la petite ville de Clanton, juste à côté. Il entre dans la petite église. Il y a là le pasteur Dexter Bell, c'est un ami. Mais Pete le vise et lui tire 3 balles dans le corps.
Okay.
Il sort, toujours très calme. Il croise l'homme à tout faire du presbytère. Il lui ordonne d'aller chercher le shérif. Pete est arrêté, placé en détention. Son avocat et ami aussi arrive. Il lui demande pourquoi il a fait ça. Réponse de Pete, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux plaider ? Non coupable.
Ça va être dur quand même, tout le monde l'a vu, etc. Et donc ça commence.
Ben, ça commence, voilà, ça ce sont les 3 premières pages. Il en faut encore 500 pour comprendre pourquoi il a fait ça et quelle sera donc la sentence. Mais surtout, c'est un Grisham qui ne vaut pas que pour la révélation. C'est un très très bon roman en
bien
soi.
Écrit,
il y a notamment tout un récit de la guerre dans les Philippines. C'est magistral. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est incroyable.
La sentence donc de John Grisham, que l'on ne présente plus, ça vient de sortir chez Lattès. Merci beaucoup Nicolas Caro. Moi j'aurai un autre choix, bien sûr, de polar français, en l'occurrence dans quelques minutes. Mais d'abord, il y aura Diane Chenouda qui est allée au cirque. Voilà, à tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 9h sur Europe 1, vous retrouvez Bernard Porretz.
Nous reprenons ce tour de table culturel avec vous, Diane Chenouda, qui êtes allée voir un spectacle de cirque acrobatique. Alors en rentrant en studio, vous me disiez, oh, ça c'est vraiment pas comme les autres, ça s'appelle La Nuit du Cerf, comme l'animal de la forêt.
Ouais.
Hein. Ça sonne comme un polar et ça tourne partout en région.
C'est la nouvelle création, en effet, de cette troupe atypique, le Cirque Le Roux. Ils sont 6 en tout, acrobates vraiment fabuleux, mais aussi comédiens. Un spectacle complètement dingue, complètement fou, qui mêle théâtre et cirque, des séances de jeux burlesques complètement barrées, avec des acrobaties vraiment, alors là, époustouflantes de virtuosité et de dangerosité. C'est un hommage aussi au cinéma des années 70. Il y a un côté polar, hein, dans un décor vintage, des personnages totalement déjantés. Alors, l'histoire, des frères et sœurs et leurs conjoints se retrouvent dans la maison de leur enfance pour les funérailles de leur mère. Ils ne se sont pas revus depuis des années et s'avirent à la farce tragicomique. Lolita est l'une des actrices acrobates.
Ce côté théâtre justement et cirque, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et comment on peut écrire un scénario comme pour le cinéma et transposer cette histoire directement sur la scène alors qu'on n'a pas de caméra, pas de gros plans, qu'il y a plusieurs personnages, qu'il se passe plusieurs choses pour incarner une histoire, rentrer dans quelque chose et mêler le tout.
Donc ça, c'est la partie romanesque, en quelque sorte, de ce spectacle.
Oui.
Mais il y a aussi un vrai spectacle de cirque avec des numéros d'acrobatie entre les séquences de comédie.
Absolument, et c'est un peu le sel hein, pour moi de ce spectacle. L'intrigue est surtout prétexte au jeu clownesque, évocation des relations hommes-femmes, entre autres. Et le sel, oui, en effet, ce sont ces numéros d'acrobatie de très haute voltige, hein, c'est le cas de le dire. Équilibre, main à main, patin à roulette, un spectacle qui épate aussi le public.
Très beau, très émouvant et des super artistes hyper complets.
C'était magnifique, c'était plein de douceur, plein de tendresse, plein de folie, plein de force, plein d'équilibre.
C'était vraiment splendide, plein de maîtrise et une mise en scène très originale.
Plein de poésie, plein d'humour, plein d'émotions.
Plein d'émotions en effet, cette création folle dingue, hein, vous l'avez compris, à la mesure de la folie de la metteuse en scène Charlotte Saliou, qui vient de l'univers du clown.
Ça s'appelle donc La Nuit du Cerf, du cirque Le Roux, dont objectivement je n'avais jamais entendu parler. Alors ça tourne actuellement en région jusqu'à la fin du mois de mai. Vous vérifierez, hein, parce qu'avec les histoires de coronavirus, tout peut être annulé d'une heure à l'autre. Mais enfin, normalement, ce soir et demain, ils sont près de Lyon, à Caluire exactement.
Absolument,
c'est bien cela
oui, tout à fait. C'est leur deuxième création.